Radio Campus 88.3.
Il faut lui redonner une image positive pour que l'homme de la rue retrouve foi.
Tout va bien dans le meilleur des ondes.
L'esprit et le corps deviennent invincibles. On peut appeler cela une philosophie.
Aujourd'hui, c'est un truc mythique.
De recherche et en consacrant 100.
Bonjour à tous, nous sommes des étudiants de l'Institut français. Nous vous avons préparé une émission avec des chroniques sur la poésie persane, sur le 8 mars, sur l'apprentissage d'une langue étrangère et la santé mentale. Nous écouterons également une discussion autour de la fête de Pâques, mais tout de suite, Magda, Georges et moi-même, nous vous proposons un reportage sur l'épicerie solidaire ESOP.
Bienvenue à Campus Radio d'Orléans. Vous cherchez des bons plans ? Vous avez besoin de faire des économies. On connaît tous qu'on est étudiants. On a besoin d'argent. Chaque atout est important. Alors, restez avec nous. Nous avons une vraiment bonne idée comment faire les économies. Est-ce que vous connaissez ESOP des 45? Sinon, restez avec nous et écoutez.
Donc, d'où est venue l'idée de l'ouverture d'épicerie?
Alors, pendant la période de confinement, donc on est en 2020 à peu près, il y a une association dont c'est pas la vocation qui s'appelle OSEM qui a organisé des distributions alimentaires.
D'accord.
C'est une époque où les étudiants pouvaient plus trouver de petits jobs, il y avait pas mal de magasins fermés, etc. Et à ces distributions alimentaires, il y avait 350 à 400 étudiants qui venaient chercher de l'alimentation.
Ouais, c'est énorme.
Et donc, à partir de là, plusieurs partenaires, et notamment l'Université d'Orléans, la Banque alimentaire, le Secours catholique, et des syndicats étudiants aussi, se sont dit qu'il faut vraiment qu'on crée quelque chose de pérenne pour répondre à cette précarité alimentaire des étudiants. Donc l'association, en fait, dans ce fil-là, a été créé en septembre 2021. Et la première étape, ça a été de trouver un local pour héberger une épicerie. Et donc le local a été trouvé en mars 2022. Et donc c'est la mairie d'Orléans qui a trouvé un local qui fait à peu près 250 mètres carrés. Et qu'il fallait complètement transformer en épicerie, puisque c'était un ancien gymnase de tennis de table.
Ah
voilà,
oui.
Voilà.
C'est génial. Est-ce que vous êtes la seule épicerie dans la région ?
Alors, dans la région, non. Il y a une épicerie qui porte le même nom qu'à Bourges, qui s'appelle ESOP également.
D'accord.
Qui a été créée en 2012. Alors, c'est une épicerie qui a le même nom, mais on est indépendant. Puisqu'à Bourges, c'est une épicerie qui dépend directement de la Banque alimentaire. Alors
D'accord.
que nous, on est une association indépendante. Et je sais qu'à Tours aussi, il y a une initiative qui a été prise. Mais je n'ai pas le nom de l'épicerie. Voilà, pour la région, en tout
okay.
cas, à peu près ce qui existe.
En
France ? Alors, j'ai aucune idée du nombre d'épiceries solidaires pour les étudiants qui
okay.
existent. Mais je sais qu'il y en a à Clermont-Ferrand, par exemple, à
D'accord.
Lille... à Toulouse,
oui.
Voilà, il y en a quand même quelques-unes.
Ok. Quelles étaient les difficultés que vous avez rencontrées en lançant ce projet ?
Alors, la première difficulté, c'est de trouver des sources d'approvisionnement, puisqu'effectivement, notre offre, c'est de proposer la vente à petit prix aux étudiants. Et donc, il faut qu'on puisse trouver des sources d'approvisionnement qui nous permettent d'acheter des produits pas chers.
Ouais.
Dans ce cadre-là, la banque alimentaire nous aide beaucoup, puisque c'est à peu près 50% des produits qu'on propose à la vente aux étudiants qui proviennent de la banque alimentaire. Donc, approvisionnement, bon, avec notre idée aussi actuelle qui est de travailler avec des producteurs locaux,
ouais.
puisqu'on propose des pommes, par exemple, de Saint-Hilaire, des oignons de Darvois.
Enfin, ah, on essaie
vraiment de travailler avec des producteurs locaux. Donc ça, c'est, l'approvisionnement, c'est une première difficulté. La deuxième, c'est de se faire connaître des étudiants, puisqu'effectivement, il y a à peu près 20 000 étudiants dans l'agglomération orlénaise.
Oui.
Et donc, ce qu'il faut, un, c'est se faire connaître des étudiants, et deux, aussi, leur dire qu'il n'y a aucune honte à venir faire ses courses dans une épicerie solidaire.
Oui.
Puisqu'effectivement, parfois, ça peut être connoté. Les étudiants sont gênés de se dire, voilà, je vais afficher. Mais donc, il n'y a aucune honte, effectivement, à avoir des difficultés financières quand on est étudiant et à profiter quelque part de ce qu'on propose. Évidemment, le troisième sujet où... Alors, je ne vais pas parler de difficultés, parce qu'on est quand même aidé, c'est qu'effectivement, on est donc une association à but non lucratif, et donc on fonctionne aussi avec des subventions. Et donc, il est important pour nous... Alors, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment une difficulté, mais voilà, c'est quand même quelque chose qu'il faut trouver. Il faut trouver des gens qui nous subventionnent. Et donc, on est principalement aidé par l'État via la préfecture, la CAF du Loiret, la mairie d'Orléans qui nous met à disposition locale, le Secours catholique... Voilà, on a pas mal d'acteurs comme ça. La région centre aussi qui nous finance en partie. Donc voilà à peu près les trois difficultés qu'on peut rencontrer. Pour l'instant, je veux dire, au démarrage, voilà, c'était des difficultés. Aujourd'hui, c'est plutôt des choses qui avancent positivement.
Okay. Du coup, dans l'association, vous êtes deux salariés ?
Voilà. Donc moi, je suis Benoît, je suis le responsable de l'association salariés. Et donc moi, je suis entré dans le projet quand on a trouvé le local en mars 2022, avec l'idée de tout monter, et donc quelques semaines avant l'ouverture, j'ai recruté donc Sonia, à qui j'ai confié le quotidien de la gestion de l'épicerie. Donc on s'appuie sur deux salariés, des volontaires service civique, on essaie d'en prendre deux chaque année, et évidemment aussi des bénévoles. Aujourd'hui on a une quarantaine de bénévoles sans lesquels rien ne serait possible, parce qu'effectivement, on est ouvert du mardi au vendredi de 14h30 à 18h30 et le samedi de 10h à 15h. Donc si on veut pouvoir accueillir dans de bonnes conditions les étudiants, les deux salariés, les deux volontaires service civique ne sont pas suffisants. Donc évidemment, et c'est l'occasion de les remercier, on fait appel aussi aux bénévolats.
Ok. Et quelles conditions faut remplir pour pouvoir bénéficier de pouvoir venir faire ces courses
Alors, allez, la première condition, c'est d'être étudiant de l'enseignement supérieur de l'agglomération orléanaise. Alors, ça ne concerne pas que les étudiants de l'université, puisqu'on peut être inscrit en prépa à Poitiers. Il y a des étudiants qui viennent de BTS à Saint-Jean-de-Bray, à Fleury-les-Aubrais. Donc ça, c'est la première condition. Et puisqu'on est une épicerie solidaire, il y a aussi des conditions de ressources. Donc concrètement, l'inscription se fait exclusivement en ligne. Donc on a créé un site internet qui est accessible depuis le smartphone des étudiants, puisqu'ils travaillent beaucoup avec leur téléphone. On demande à l'étudiant un certain nombre d'informations, et notamment quelles sont ses ressources. Est-ce qu'il bénéficie d'une aide de ses parents, d'une aide au logement de la CAF, d'une bourse? Quelles sont ses charges? Est-ce qu'il paie un loyer, un abonnement téléphonique, un abonnement transport en commun? On lui demande de prendre en photo les pièces justificatives. Une pièce, assez simplement, une quittance de loyer, la notification de bourse. Et donc nous, à partir de là, on regarde mensuellement quelles sont ses ressources, quelles sont ses charges. On calcule ce qu'on appelle le reste à vivre. Donc c'est la différence entre les ressources et les charges chaque mois. Et on a fixé un seuil en deçà duquel on accepte le dossier d'étudiant. On ne communique pas sur le seuil. Néanmoins, cette année, donc on fonctionne par année universitaire. On en est à 985 inscrits pour cette année universitaire. Et on a fait une soixantaine de refus pour des étudiants justement qui dépassaient ce seuil de reste à vivre. Et on prend bien soin d'accompagner les refus en proposant aux étudiants de les recevoir pour expliquer pourquoi on refuse leur dossier. Ce qui nous amène parfois à revenir sur notre décision, puisqu'effectivement, ça reste un questionnaire administratif. Les étudiants peuvent soit mal comprendre, soit mal compléter. Et donc, ça nous amène parfois à revenir sur notre décision.
D'accord. Et comment voyez-vous l'avenir de l'épicerie évolution? J'ai vu que maintenant, vous louez même les... électroménager.
Voilà. Alors l'avenir, je dirais, c'est effectivement d'essayer de développer des services à l'attention des étudiants. Donc ce qu'on fait déjà aujourd'hui quand même, au-delà de la vente à petit prix de produits alimentaires, d'hygiène et d'entretien, c'est ce qu'on fait. On fait déjà des ateliers, puisqu'on propose régulièrement des ateliers cuisine aux étudiants. On propose des petits déjeuners avec une nutritionniste. Enfin, voilà, on essaie de multiplier les animations. Ce qu'on veut, c'est un peu plus développer ces activités, et notamment avec une orientation forte qui est de développer d'habituer les étudiants à avoir une alimentation saine et bonne pour l'environnement. Quand je dis bonne pour l'environnement, c'est de plus en plus travailler avec les producteurs locaux et que les étudiants consomment des produits locaux. Et par exemple aussi, ce qu'on va faire prochainement, c'est des ateliers cuisine saine et anti-gaspi, avec l'idée de gaspiller un minimum de l'alimentation. Donc ça, c'est une première perspective. Quand je parlais de nouveaux services, effectivement, on a mis en place la location d'électroménager à petit prix pour les étudiants. On propose par exemple un aspirateur, un blender, un crêpe party, un appareil à raclette que les étudiants peuvent réserver en ligne, et c'est 2 euros pour 4 jours de l'occasion. Et notre projet aussi, c'est effectivement, au regard du nombre d'étudiants bénéficiaires qui ne cesse d'augmenter, puisqu'on devrait être à peu près à 1200 inscrits en fin d'année universitaire, l'année prochaine à 1600, on a un projet actuellement qui nous tient à cœur, c'est d'essayer d'ouvrir une deuxième épicerie qui serait ouverte en centre-ville d'Orléans. Puisqu'aujourd'hui, on a pas mal d'étudiants en fait, qui sont logés en centre-ville, qui viennent faire leurs courses ici. D'autres étudiants qui ne sont pas inscrits parce que ça leur fait un peu loin pour venir ici. Et donc l'idée, c'est vraiment d'ouvrir une seconde épicerie en centre-ville. D'une part, pour répondre à une attente des étudiants du centre-ville. Et d'autre part aussi, parce qu'ici, on va atteindre un moment, un stade critique en termes de capacité à recevoir les étudiants sans avoir des temps d'attente importants. Aussi, qu'il y a un peu moins d'étudiants qui viennent ici et un peu plus en centre-ville. Donc de répartir un peu les étudiants sur ces deux lieux. Voilà.
Est-ce que vous voulez passer un message aux étudiants qui vous écoutent à Radio Campus ou...
Oui. J'en ai deux.
Allez-y.
Le premier message, c'est vraiment de s'inscrire chez nous. Déjà, 100% des gagnants ont joué, donc n'hésitez pas à vous inscrire, puisqu'effectivement, c'est quand même un bon plan. Quand vous achetez pour 5 euros dans l'épicerie, c'est équivalent de 30-35 euros. Dans un supermarché classique, donc il y a de quoi s'offrir quelques petits plaisirs, donc il ne faut surtout pas d'une part avoir honte ou hésiter à s'inscrire, c'est vraiment un super plan intéressant, en plus vous serez accueillis par une équipe de bénévoles qui est super sympathique, donc ça c'est le premier point, et le deuxième point c'est qu'on recherche régulièrement des bénévoles, et on a déjà quelques étudiants bénéficiaires qui sont bénévoles dans l'association, donc l'idée aussi c'est qu'il y ait de plus en plus d'étudiants qui s'engagent auprès de nous pour accueillir leurs collègues étudiants et participer à la vie associative. Voilà les deux messages que je peux faire passer.
Ok, merci beaucoup.
C'est moi, merci beaucoup.
Est-ce que vous pouvez juste dire votre prénom, votre âge?
Je m'appelle Sephora et j'ai 21 ans.
Je m'appelle Nada et j'ai 28 ans.
Depuis combien de temps vous venez à l'épicerie?
Ça fait un an actuellement.
D'accord. Et vous?
Ça fait 6 mois.
Est-ce que ça vous a aidé à améliorer votre vie?
Oui, énormément. Ça m'a permis de pouvoir économiser de l'argent que je n'avais pas forcément. Et surtout, vous arrivez à avoir des produits à petit budget, donc c'est toujours intéressant.
Oui, pour moi, elle me dit beaucoup pour économiser d'argent parce que j'y trouve des produits moins chers par rapport à les autres magasins. Et je trouve aussi les produits essentiels comme le lait, les pâtes. Et...
Okay. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'initiative?
C'est intéressant parce qu'on n'a pas ce genre d'initiative partout. Ce n'est pas dans toutes les villes étudiantes. Donc on a déjà cette chance-là parce que moi qui viens de Paris, on n'a pas toujours cette chance-là à Paris de pouvoir avoir des aides pareilles pour pouvoir nous permettre de faire nos courses. Et sachant que Paris est beaucoup plus cher, c'est sûr que c'est très intéressant.
Est-ce que vous voulez passer un message aux étudiants pour leur dire qu'ils peuvent venir à l'ESOP, de ne pas avoir honte peut-être? Il y en a qui sont peut-être gênés de...
Non, franchement, il n'y a pas de honte à avoir. Vraiment, faites, parce que c'est de l'argent que vous allez pouvoir garder pour certaines activités, pour pouvoir faire des économies, pour passer votre permis pour ceux qui ne l'ont pas passé, etc. Donc vraiment, c'est une opportunité à pouvoir avoir.
Et vous-même, vous êtes musulman?
Oui.
Vous trouvez quand même les produits alimentaires qui vous conviennent?
Oui.
D'accord. Ok, merci beaucoup. Bonne journée.
Merci à vous-même.
Donc, bonjour, Marianne.
Bonjour.
Vous êtes bénévole à ESOP?
Oui, depuis l'ouverture. Depuis l'ouverture. Novembre 2022.
22, oui.
22, ouais.
Pourquoi tu as choisi cette association et pas une autre?
Eh bien, en fait, c'est un concours de circonstances avec Sonia, puisque je connaissais Sonia des Réseaux du Cœur.
Donc, Sonia, c'est la gérante des ESOP.
Voilà. Et puis, je propose de demander si elle avait besoin de bénévoles. Elle dit oui. Et puis, j'ai signé.
Parfait. Merci beaucoup, Marianne.
Avec plaisir.
Donc, bonjour, Fatima. Enchantée. Vous êtes bénévole à ESOP?
Oui.
Depuis combien de temps êtes-vous ici?
Depuis janvier 2023, D'accord. Donc un an.
D'accord.
Un an.
Et pourquoi cette association, pas une autre?
J'étais sensibilisée par la cause des étudiants pendant le Covid. Et j'ai vu que beaucoup d'étudiants étaient en difficulté, avaient du mal.
Oui.
Et effectivement, quand j'ai vu, je suis passée et que j'ai vu qu'il y avait cette épicerie solidaire, je me suis dit, là, il y a peut-être quelque chose à apporter à l'épicerie, quoi. Voilà.
Du coup, qu'est-ce que vous faites ici? Est-ce que vous faites plutôt l'accueil, caisse, caisse, tout?
Je fais un peu de tout, mais c'est vrai que je suis beaucoup à la caisse.
D'accord.
Ou à l'accueil.
Bonjour les filles, j'ai vraiment de la joie de rencontrer deux petites filles qui s'appellent
Assia, Juliette.
Et vous avez quel âge?
Moi j'ai 11 ans.
Moi je vais avoir 11 ans le 20 avril.
D'accord.
C'est plus des petites filles, hein, c'est des pré-ados. Hein.
Excusez-moi, des jeunes filles. Des jeunes filles. Alors ça fait depuis combien de temps vous venez à ESOP?
C'est la quatrième fois que nous venons à ESOP. Ce qu'on fait à ESOP, c'est que normalement, on avait dit qu'on allait faire de la mise en rayon.
D'accord.
On fait la caisse et l'accueil.
Super. Et comment vous vous sentez? Vous êtes à l'aise à faire ça? Est-ce
oui.
que ça vous
oui,
plaît?
Oui, beaucoup.
Beaucoup.
De l'école.
Paul Doumer. Paul Doumer. À Saint-Jean-de-la-Réelle, on est un groupe de 9 filles.
D'accord.
Ça s'appelle le CJCS, le Conseil des jeunes pour le climat et les solidarités.
Super. Génial. Et comment vous trouvez l'association, des gens avec vous, d'autres bénévoles?
Super.
Super.
Ils sont très gentils. Très gentils avec nous. Ils sont accueillants.
Oui.
Et ben, on sent bien ici.
Oui.
C'est génial. Bon, merci beaucoup.
De rien.
De rien.
Maintenant, nous allons faire une pause musicale. Nous vous avons préparé la chanson du grand gagnant de dernière Star Academy, avec laquelle il a réussi à conquérir le jury du château. Voici Pierre Garnier, ce qu'on avait.
Je vais pas te retenir, j'ai déjà fait trop de fois. Et comme dernier souvenir, je ne veux pas de celui-là, pas celui où tu t'en vas. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était. Et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était. Et c'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pardonné, pardonné. S'il fallait recommencer, je crois que je ne changerai rien. De nous j'ai tout aimé, même quand ça se passait pas bien. T'avais de l'or dans les mains. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on est. Et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était. Et c'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. On se regarde peut-être pour la dernière fois. Et sans se parler, c'est comme un dernier au revoir. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était. Et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était. Et c'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné.
Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais présenter un thème qui concerne tous les gens, peut-être plutôt les étudiants. C'est le sujet sur la santé mentale, car c'est très essentiel et important de notre bien-être. C'est tout d'abord un droit humain fondamental et en même temps, c'est une chose qui a un grand impact significatif sur la qualité de vie des gens. Aujourd'hui, on va rencontrer pourquoi la santé mentale des étudiants est un élément crucial et de leur bien-être, comme j'ai déjà dit, et de leur réussite académique. Parce qu'il consiste une population particulièrement vulnérable aux problèmes personnels. En comparaison, par exemple, à des gens adultes qui ont plus de 25 ans du même âge, mais déjà entrés dans la vie active. Les conditions de vie, les difficultés financières, l'éloignement familial, l'isolement affectif sont autant de facteurs qui provoquent le stress et le mal-être. Selon les recherches de directrice du laboratoire AEPSIV à l'Université de Nîmes, Elodie Carbonnière, 82% des étudiants présentent de possibles symptômes dépressifs, 54% des possibles symptômes anxieux pendant les périodes du COVID-19. Et bien sûr, il y a des problèmes qui restent toujours préoccupants parmi les étudiants en France. Donc, problème déjà pas à résoudre, il reste le même. Ils sont fortement touchés par la dépression du fait de la pression sociale, la peur de l'échec et l'angoisse pour leur avenir, leur détresse les mène la dépression ou le burn-out. Les troubles alimentaires après la pandémie laissent encore des traces. Ce sont la boulimie, par exemple, hyperfatigue, troubles restrictifs, anorexie, troubles obsessionnels compulsifs. Depuis les 18 ans, les 18 ans 24 ans sont les plus en plus nombreux à aller consulter un psychologue ou un psychiatre. Pourtant, le pourcentage de chiffres n'est pas trop haut. Seulement 50% des étudiants en 3 ans viennent pour demander les consultations. C'était daté par rapport à un article en 2024. Par ailleurs, de nos jours, les gens étudiants qui ont signé le contrat pour financer leurs études ressentent plus de la fatigue en réduisant le temps de sommeil et de loisirs. Ça incite les étudiants à abandonner leur emploi, abandonnant même parfois leur année universitaire. Le manque de liens sociaux à un âge où beaucoup quittent leur famille affecte de psychisme autant que le stress. En général, à cause du stress, on ressent des maux de tête ou des douleurs corporelles. C'est un problème des étudiants aussi. Il est essentiel que l'établissement enseignement supérieur connaissent importantes de la santé mentale des étudiants et mettent en place des mesures pour leur soutenir. Donc, pour aider les étudiants qui ont tel trouble, on peut les éduquer sur la manière de prendre soin de leur bien-être émotionnel et présent des ateliers ou des événements sur le sujet. Mais pour éviter également de nouvelles difficultés dans les études et dans la vie sociale, il est totalement possible de consulter un psychologue directement sur le campus universitaire. De nombreux campus proposent les aides pour soutenir le bien-être mental et aussi pour gérer l'anxiété ou la dépression. Ces services peuvent être gratuits ou à tarif réduit pour les membres de la communauté universitaire. En France, il existe plusieurs plateformes de psychologues en ligne pour lesquelles vous ne pouvez pas payer ou payer même moins cher avec un tarif abordable. Je peux vous présenter 4 exemples de plateformes que vous pouvez retrouver. La première, c'est Psychologie Directe, ça s'appelle comme ça. La deuxième, c'est psychologue.net. La troisième, c'est Fédération française des psychologues et de psychologie, avec l'abréviation FFPP. Il est également recommandé de bien vérifier que les psychologues sont qualifiés et certifiés avant de la consulter. C'est très important pour vérifier l'avant, en avance. En plus, on doit faire attention aux nos besoins élémentaires qui sont la base d'une vie mentale normale. La première chose est manger suffisamment, bien dormir, déconnectez-vous avant de dormir, faire de l'exercice, boire suffisamment d'eau pendant la journée, prendre les pauses de la technologie. Finalement, notre santé mentale affecte de la qualité de vie. Prendre soin de nous implique d'adopter des pratiques et des stratégies qui favorisent l'équilibre émotionnel et le bien-être. Et pendant soin de notre santé mentale, nous contribuons à construire une société plus équilibre, bienveillante et prospère pour tous.
Merci Sophia. Merci pour cette chronique sur la santé mentale.
Merci beaucoup.
Alors on va écouter Birdie avec un titre qui s'appelle Wings. C'est le titre que tu as choisi.
Apprendre une nouvelle langue, c'est toujours un défi et un grand challenge. Une autre langue, c'est comme un autre cerveau. Vous devenez une autre personne avec une nouvelle personnalité. On va écouter Farah parler de son expérience à l'apprentissage d'une nouvelle langue.
Bonjour à tous, je suis Farah. Et c'est mon expérience à l'apprentissage d'une nouvelle langue. 1. Écouter des chansons et regarder des films avec sous-titres. En langue maternelle et la deuxième fois en la nouvelle langue. Ça aide à beaucoup. Faire un bénévolat, c'est très efficace d'intégrer et socialiser pour absorber la nouvelle langue. Socialiser, être courageuse, va parler même si tu fais des erreurs. Lire les panneaux dans la rue et les tableaux dans le bus et le train. Et puis faire des attachements entre la nouvelle langue et la langue maternelle. C'est très efficace. Ne sois pas déprimé si tu ne peux pas t'exprimer parce que c'est très très normal. Sois patient. Ça arrive. C'est compliqué au début, mais ça arrive. Et bien sûr, avoir les amis qui partagent le même projet, la solidarité nous aide beaucoup. Et maintenant, on va écouter la chanteuse syrienne Lina Shamamian avec son chanson « Lama Bada Yata Sanna ».
La fête du Pâques, Bonjour Yusara, ça te dit quelque chose Pâques?
Bonjour Savina, pour moi, Pâques c'est un fête de célébration en famille. Et quand je pense à Pâques, j'imagine les lapins, des œufs au chocolat et bien sûr la nourriture typique.
Pour savoir comment on célèbre cette fête dans différentes parties du monde, on a posé la question à nos camarades de l'Institut de français à l'université.
Donc, comment célèbre-t-on la fête de Pâques dans ton pays?
Dans mon pays, la fête de Pâques, c'est une fête familiale, traditionnelle. À l'origine, c'est une fête religieuse, comme vous le savez. Oui, vous connaissez la signification de Pâques, hein, la mort et la résurrection de Jésus-Christ pour les croyants. Mais maintenant, c'est surtout une fête familiale où on fait un repas de famille, un petit peu comme à Noël. Mais c'est moins important que Noël pour les gens qui ne sont pas croyants, parce qu'à Noël, il y a tout le folklore des cadeaux qui fait que c'est très important pour les enfants, alors qu'à Pâques, c'est moins important. Mais pour les enfants, il y a quand même la tradition du chocolat et des œufs, des poules, des lapins en chocolat qu'on va cacher, quand on a une maison, on va cacher dans le jardin. Et les enfants doivent aller chercher et trouver tous ces objets en chocolat. Si on n'a pas de jardin, on cache ça dans l'appartement ou sur son balcon. Et les enfants aiment bien ça.
Est-ce qu'il y a un plat typique que vous les préparez pendant le Pâques?
À Pâques, le plat typique, c'est souvent de l'agneau. Un gigot d'agneau.
Et quelles sont les traditions les plus remarquantes dans le pays?
Quelles sont les traditions liées à Pâques?
Oui, dans toute la France.
Dans toute la France, oh ben c'est les œufs, oui. Les œufs de Pâques, oui.
Les œufs et chercher des...
Des œufs ou des... Il y a aussi des animaux, les poules, les lapins, le lapin de Pâques... Parce que ça représente la fertilité, sans doute, oui.
Et les œufs?
Oui. Ben, les œufs aussi, c'est un symbole de fertilité. D'accord. Et puis les œufs, avant Pâques, il y a toute la période qu'on appelle le carême. Vous savez? Vous connaissez le carême? C'est les 40 jours avant Pâques où les gens qui sont très croyants vont manger moins de viande ou faire des efforts dans leur vie, avoir une vie... plus strict pour préparer le moment de la mort du Christ. Mais aujourd'hui, il y a très peu de gens qui respectent encore le carême. C'est pas comme le ramadan dans l'islam qui est très suivi, parce que la France est un pays qui s'est beaucoup déchristianisé, où il y a de moins en moins de gens qui observent les rites religieux. Mais autrefois, pendant le carême, on ne mangeait pas les œufs aussi, on les gardait, on les faisait cuire, on les gardait, puis on les décorait. Ouais. On les décorait et ensuite on les sortait à Pâques.
C'est tout pour nous. Merci.
Merci à vous.
Bonjour Alfredo. Aujourd'hui, tu vas nous parler de la fête du Pâques. Et tu viens d'où?
Salut à tous. Je viens du Mexique. En Mexique, la Semaine Sainte est une célébration très importante. Les gens participent à des processions religieuses et assistent à des messes spéciales. De plus, il est courant de se réunir en famille et de profiter des plats traditionnels.
Et quels sont les plats typiques des Pâques dans mon pays?
Et bon, au Mexique, on ne peut pas manger le bacalao à la Vizcaña et les torrijas. De plus, les familles préparent des plats avec des ingrédients locaux, comme les chiles en nogada, à déguster pendant la Semaine Sainte.
Quel plat délicieux! Donc, quelles sont les traditions les plus marquantes des Pâques dans mon pays?
Au Mexique, la quema de Judas est une tradition unique. On fabrique des poupes représentant Judas Iscariote, rempli de feux d'artifice et on les brûle comme un acte symbolique.
Merci Alfredo.
De rien, merci à vous.
Bonjour.
Pour vous connaître, comment c'est la célébration des Pâques à Pologne?
Alors tout d'abord, en Pologne, nous préparons un petit panier dans lequel on met un tout petit peu de nourriture, c'est-à-dire du pain, du sel, des œufs bien sûr, des saucissons, peut-être du pâté, ça dépend des personnes. Dans ma famille, on mettait juste ça. On décorait bien notre panier, on mettait toujours un petit mouton, un petit poussin pour que ça soit joli. Ensuite, nous allons à l'église. Et là-bas, il y a une énorme table qui est tout le long de l'église. Tous les 15-20 minutes, il y a un prêtre qui passe, qui bénit notre nourriture et notre panier pour que nous ne manquions pas de la nourriture dans l'année. Ensuite, nous rentrons chez nous et on mange la nourriture qui était bénie, c'est-à-dire le plus âgé de la maison, de la famille, coupe l'œuf et distribue à tout le monde en souhaitant tous les vœux de bonheur, de la joie, de la santé. Ensuite, on passe à table, on fait le petit repas.
D'accord. Et est-ce qu'il y a un nom spécial pour les plats typiques de Pâques?
Ce sont des plats traditionnels, comme on les mange aussi pour le Noël. Mais on mange pour le Pâques, c'est spécialement la choucroute qu'on mange et de la salade. C'est un peu comme la piémontaise française, ça ressemble beaucoup. Ensuite, du jambon, des plats qu'on ne mange pas au quotidien.
D'accord. Et pour finir, quelles sont les traditions plus marquantes de Pâques dans vos pays?
Par exemple, chez nous, on fait lundi arrosé, c'est lié à Pâques. Donc, lundi avant le Pâques, on court dans tous les sens, dehors. On s'arrose mutuellement avec les garçons, les jeunes, les un peu plus âgés. Tout le monde fait ça, ça dépend de météo. Mais on s'arrose mutuellement et on passe des merveilleux moments et tout le monde s'amuse.
D'accord. Merci, madame.
Merci.
Merci, madame. Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Et George, bonjour, merci pour votre
bonjour.
Présence. Comment s'élève-t-on la fête des Pâques dans vos pays?
Bonjour. Normalement, on célèbre des Pâques de manière extraordinaire parce qu'on a deux Pâques. Avec la coïncidence de Pâques de Pharaon, de l'Égyptien tous, et le Pâques qui tombe le même jour avec le Pâques des chrétiens. C'est pourquoi tout le pays fait des Pâques ensemble. Ce n'est pas comme ici, il y a des Pâques, il y a des vacances pour tous, mais il faut tous qui célèbrent. Pour nous, non, c'est tout le pays célèbre.
Et Nadine, quels sont les plats typiques des Pâques dans vos pays?
Le plat typique pour célébrer le Pâques, c'est le ringa. C'est le poisson salé.
Ah, d'accord.
Oui.
Et la dernière question, quelles sont les traditions plus marquantes des Pâques dans vos pays?
Ah oui, au début, oui, aller à l'église, après l'église, mais aller le veille. Mais au matin, on va partir au grand jardin où toute la famille va rencontrer.
D'accord. Juste. Merci, Georges.
Vous en prie.
Incroyable d'en apprendre davantage sur ces traditions fascinantes. Nous les remercions d'avoir partagé leur expérience.
Et au final, on est tous différents, chacun a sa religion, ses croyances et ses origines, ce qui fait la beauté de ce pays.
Oh,
Bonjour Lisa.
Bonjour Magda.
Donc tu es irakien, ça fait combien de temps que tu vis en France?
J'habitais ici en France depuis 3 ans. Je viens d'Irak, comme vous avez dit. Moi, je travaillais dans l'association de droits de femmes en Irak.
Et pourquoi ce sujet-là te tient particulièrement à cœur?
Comme je vous ai dit, moi, je travaillais dans une association qui supporte les femmes. Dans mon travail, j'ai rencontré beaucoup de femmes avec différentes histoires. Ça me tient au cœur. Je veux ajouter quelque chose. Ma mère, elle était une victime de violence contre les femmes, avec mon père, malheureusement.
D'accord. Et comment ça se passe dans ton pays, justement? Est-ce qu'il y a des associations? Est-ce que les femmes sont protégées, aidées?
Il y a des associations. Ils n'ont pas haut voix, malheureusement, à cause de beaucoup de choses, à cause de la culture, la famille, l'héritage de religion, de beaucoup de choses. Les femmes, tout le temps, il est un objet complémentaire pour les hommes, pas plus que ça.
D'accord. Est-ce que c'est toujours un sujet tabou chez vous, dans ton pays?
Bien sûr, c'est tabou.
D'accord. Ouais. On parle souvent des violences physiques. C'est une question très délicate, mais quels d'autres types de violences rencontrent les femmes?
Ah oui. La violence que l'on peut voir et on peut apercevoir, c'est la violence physique. Mais malheureusement, il y a la violence psychologique, la violence sexuelle, y compris le viol. Il y a beaucoup, beaucoup en Irak, ça, malheureusement. L'harcèlement et en plus le mariage forcé. Mais c'est pas que pour les femmes, même pour les hommes. Mon frère, il était un victime de ça aussi.
D'accord. Donc même les hommes sont victimes aussi de harcèlement, en fait.
Pas tous, mais oui, on peut dire que oui.
D'accord. Est-ce que tu as des chiffres à nous communiquer par rapport à les violences faites aux femmes ou aux hommes?
On prend par exemple en 2022, il y a une femme sur 10 victime de violences conjugales. Je vais relancer plus de chiffres. 118 femmes ont été tuées par leur partenaire ou ex-partenaire. 27 hommes ont été tués par leur partenaire ou ex-partenaire. Et 12 enfants mineurs sont décédés, tués par leurs parents dans un contexte de violence au sein du couple. Et si on parle des femmes, ils sont 92% de morts au sein du couple sont des femmes.
D'accord.
Donc, ce chiffre, on dit, on parle maintenant si ce chiffre, ce que je dis.
Ces chiffres.
Ces chiffres, dans ce que je vous parlais, c'est un chiffre en France. Donc, malheureusement, moi, quand je suis arrivé en France, je pensais que la violence contre les femmes, ça n'existe pas ici en France. Mais de plus en plus, j'ai rencontré des femmes, la plupart de mes amis sont femmes ici en France. Je trouve qu'il y a beaucoup de violence ici en France, même si France est un pays développé si on compare par rapport à l'Irak.
Okay. Est-ce que tu as des conseils à donner aux femmes?
Parler.
Aux femmes battues, même hommes?
Parler, manifester. Ne sois pas prisonnier à cause d'amour, parce que quelquefois, ce n'est pas que la faute d'hommes. Quelquefois, il y a beaucoup de femmes face à la violence. Il ne peut pas quitter son conjoint. Son conjoint parce qu'il aime. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas un travail ou un moyen de vivre un logement. Quelquefois, ce n'est pas que la pauvreté.
Donc, le message que vous voulez passer, c'est parler dans votre entourage, parler dans votre travail, à votre famille, vos amis. Restez pas enfermés. et vous allez chercher de l'aide partout où c'est possible.
Exactement, c'est okay. Ça.
Merci Issa.
Merci, au revoir.
Vous êtes toujours sur Radio Campus et maintenant on va écouter Afarostej parler un peu de la poésie persa.
Bonjour à tous les auditeurs. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un poète iranien emblématique, Ferdowsi. Né aux alentours de 940 dans la région de Tous, Ferdowsi est souvent considéré comme le plus grand poète de la littérature persane. Son œuvre le plus célèbre est le Shahnameh, également connu sous le nom de Livre des Rois. Cette épopée, composée de près de 60 000 vers, retrace l'histoire et la mythologie de l'Iran depuis la création du monde jusqu'à l'arrivée de l'islam. Le Shahnameh est non seulement un chef-d'œuvre de la littérature persane, mais aussi un pilier de l'identité culturelle iranienne. Ce qui rend Ferdowsi si remarquable, c'est son dévouement à préserver la langue et la culture persane à une époque où elle était menacée par l'invasion arabe. En écrivant le Shahnameh en persan classique, il a contribué à la préserver. En écrivant le Shahnameh en persan classique, il a contribué à préserver et à promouvoir l'identité nationale iranienne. Au-delà de leur importance, l'histoire et culturelle, les poèmes de Ferdowsi sont également appréciés pour leur beauté littéraire et leur profondeur philosophique. Son utilisation magistrale de la langue persane, ainsi que ses récits captivants et ses personnages importants, continuent d'inspirer et les lecteurs. Pourquoi je dis « et » Il n'y a pas « et »
du monde entier.
Son utilisation magistrale de la langue persane, ainsi que ses récits captivants, et ces personnages mémorables continuent d'inspirer les lecteurs du monde entier. Dans le Shahnameh, Ferdowsi raconte l'histoire de Rustam et Sohrab, l'une des tragédies les plus célèbres de la littérature persane. Rustam, le plus grand héros iranien, se retrouve confronté à son propre fils, Sohrab, qu'il n'a jamais connu. Ignorant l'identité de son père, Sohrab cherche à venger l'honneur de sa mère en combattant Rustam. Malheureusement, les deux se battent à mort dans un duel déchirant, révélant leur lien familial trop tard. Cette histoire poignante explore les thèmes de la destinée, du sacrifice et de la tragédie familiale, captivant les lecteurs par sa profondeur émotionnelle et complexité psychologique. En conclusion, Ferdowsi reste une figure emblématique. De la littérature mondiale dont l'héritage perdure à travers ses poèmes épiques intemporels. Il incarne la richesse et la profondeur de la culture iranienne et son œuvre continue de nous émerveiller et de nous inspirer aujourd'hui. Je souhaite que dans le monde soit rempli de paix, de justice et de respect pour tous. Je souhaite que nous tous, en tant que communauté mondiale, avancions vers un avenir meilleur et le plus lumineux dans la solidarité et coopération. Je vous dis au revoir avec le slogan iranien actuel, la vie, la femme, la liberté.
merci de nous avoir écoutés. Nous sommes les étudiants de l'Institut de français à Orléans. On espère que vous avez aimé toutes nos émissions faites par mes collègues Magdalena, Georges, Jussara, Sabrina, Sophia, Farah, Ong, Isa, Farastesh, Marina et moi-même. Un grand remerciement à Vivian qui nous a accueillis et Madame Guesbaya qui nous a aidés tout au long du projet. Restez à l'écoute du Radio Campus 88.3 FM.